Mathieu Gonnet, bonjour. Donc bonjour. Vous êtes à Mons, faisant partie du jury international du festival de Mons. C'est quoi, quelques jours de détente? Au contraire, vous prenez votre ordinateur, vos partitions et vous continuez à bosser?
C'est rien de tout ça en fait, puisque en fait il y a une très belle programmation ici avec en compétition internationale 11 films. Et donc nous voyons 3 films par jour, ce qui laisse peu de temps pour autre chose, le temps d'en parler aussi, le temps d'évoquer tout ça. Donc non, c'est pas vraiment des vacances. En revanche, c'est un moment extraordinaire puisque on est d'abord très bien reçu, avec beaucoup d'égards, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, et puis tout ça prend du temps. Donc voilà, c'est une parenthèse, une bulle.
Alors bon, on vous rencontre, on ne peut pas faire autrement que de parler un petit peu, en tout cas, de la Starac. 2001-2007, répétiteur, directeur musical. Est-ce qu'on passe de l'ombre à la lumière? On vous a revu avec les émissions anniversaires et on comprend, enfin surtout, on écoute vos explications. C'était de la folie quand même. Hein.
Oui, c'est toute une époque aussi. C'est non seulement un programme passé, mais c'est aussi toute une époque qui aujourd'hui est un peu révolue, qui a changé. Non, c'était quelque chose de très à part. Moi, en fait, j'étais vraiment musicien. J'accompagnais des chanteurs. Je faisais pas mal de choses avant la Star Academy. C'est comme ça que je suis arrivé sur ce programme. Et après, moi, je voulais vraiment me destiner à la musique de film, à arrêter ce qu'on appelle la variété, la chanson, et sortir du programme. J'ai arrêté de mon propre fait après la 7e édition. J'aurais dû continuer, mais voilà, je souhaite arrêter. Et il a fallu plusieurs années pour installer une autre carrière.
2012, plan de table.
Bravo, vous êtes très renseigné. Oui, c'est ça, il a fallu 4-5 ans pour vraiment rentrer pour devenir compositeur.
Alors avant ça, mais c'était déjà une inspiration de votre part?
Je fais de la musique pour faire ça.
Ah, c'est ça.
Je voulais faire de la musique pour faire de la musique de film. Et voilà, il m'a fallu quelques années. Alors j'ai dirigé la musique des autres, j'ai fait des arrangements, j'ai fait des orchestrations, j'ai travaillé sur les films des autres. Mais voilà, avant, effectivement, comme vous avez la gentillesse de le mentionner, avant Plan de Table, il n'y avait pas eu de musique dont j'avais...
Plan de Table, justement, produit, coproduit par Nexus Factory, avec un certain Sylvain Goldberg.
Oui.
Que vous allez notamment retrouver aussi sur Santa et compagnie.
Ah, pas sur Santa, non, pas du tout. Non.
Il n'était pas producteur,
là-bas? Oui, en tant que producteur, oui. Ouais, il faut dire que Sylvain est un coproducteur qui a coproduit beaucoup de films. Et puis c'est pas qu'un coproducteur, c'est quelqu'un sur un film qui sait insuffler beaucoup de choses. Et au-delà du métier, c'est aussi un musicien, un compositeur.
Vous faites des bœufs entre vous?
Avec Sylvain, ça serait plutôt une vache folle. Mais non, mais bien sûr, on s'est souvent retrouvés autour de la musique. Et puis c'est surtout un ami. C'est mon témoin de mariage, donc c'est pas rien. Et voilà, c'est un ami qui m'est très cher. Alors avec ce grand paradoxe que on est éloigné géographiquement, donc parce qu'il est bon, il a plein de qualités, mais il est quand même belge, donc voilà, il en faut.
Je dirais. Merci pour la tare.
Manquerait plus qu'il soit chauve. Alors là, je vais devoir. Mais voilà, dans ses nombreuses qualités, il a le fait d'être belge, mais malheureusement pour moi, il est loin. Donc on ne se voit que peu. Il est souvent à Paris, mais en fait dans nos métiers, voilà, c'est difficile de se capter.
Une autre personne qui compte quand même, semble-t-il, dans votre vie professionnelle, c'est PEF,
oui.
Pierre-François Martin Laval, les profs bien sûr, bon, mais en fait déjà avant, votre comédie musicale 2010, c'était déjà lui qui mettait en scène.
Quand même. Ah, et comment? Mais il a mis en scène et il a adapté, on s'est rencontrés comme ça, il a adapté une comédie musicale des Monty Python qui s'appelle Spamalot, et j'ai eu la chance de commencer à travailler avec Pierre-François à ce moment-là. Et ça, je vais vous dire, c'est gentil que vous évoquiez ces deux personnes parce que quand je me suis marié, j'ai eu 2 témoins de mariage.
Ah ouais.
J'ai eu Sylvain et Pierre-François qui sont autant vous dire, donc des amis très proches. Alors avec PEF, effectivement, il y a eu Spamlot qui a été une aventure incroyable, qui marque un peu les débuts au grand public, par exemple, d'Arnaud Ducret, qui était Galad. C'était absolument génial, parce que des danseurs sur scène, un orchestre, on l'a joué 60 fois, 60 fois, j'étais plié de rire, alors qu'on avait fait un an de casting, d'audition, des mois de répétition. C'était formidable. Et puis, bah, après, on a, effectivement, PEF a eu la gentillesse de faire appel à moi pour l'épreuve 1 et l'épreuve 2 avec Kev Adams. Donc, on a continué.
Et Gaston.
Et Gaston, tout à fait, qui était un projet un petit peu... J'étais plus absent sur Gaston, mais tout à fait.
Votre actualité, qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, qui sort le 6 avril, un film choral. Est-ce que, comme un peu Plantable, est-ce que ça amène certaines exigences différentes d'un autre film où vous auriez à composer une musique
Chaque film est de toute façon un univers. Mmh. Chaque film est quelque chose de spécial. Vous parliez de Santa et compagnie, d'Alain Chabat, c'est un univers. Les films de PEF sont un univers. Et puis parfois les films plus d'auteurs, comme on dit, nécessitent encore une autre approche. Dans le cadre de qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, donc le troisième opus de Philippe de Chauvron, c'est un film choral. C'est un film où il y a déjà une famille qui est installée, une famille, j'entends, d'acteurs, d'équipes. Donc moi, je n'avais pas signé la musique des deux premiers opus. Donc j'arrivais un peu dans une équipe qui existait, et surtout sous la responsabilité du réalisateur et auteur Philippe de Chauvron, qui a fait déjà plein d'autres films et qui a une vision, qui est quelqu'un qui sait faire confiance. Ça a été une très belle aventure.
Alors, haute actualité un peu plus tard, hein, le 13 juillet, ce sera du Cobu Président. Et le 10 août, la classe internationale où vous retrouvez Frédéric Kane.
Exactement.
Avec qui vous avez tourné, pour lequel vous avez travaillé avec Marum.
Exactement.
Quand on a des comédiens comme Audrey Fleurot, Berléand, vous avez déjà eu l'occasion de croiser, est-ce que pour un compositeur, ça a un impact sur votre travail, le fait de connaître les comédiens et de les retrouver même si...
Dans le cas d'Audrey, on s'est juste croisés. L'idée, c'est quand même que le travail d'un compositeur de musique de film est souvent à 99% en post-production. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on intervient alors que le film est déjà terminé. Le cas de François Berléand est un peu particulier, puisqu'il y a quelques mois, on était ensemble dans le jury du Festival de la Baule. Et donc, c'était mon président pendant une semaine. je dois avouer que c'est d'abord un très bon camarade, quelqu'un de formidable, d'aussi cultivé que drôle.
Et chaleureux.
Ah oui, c'est comment on ne peut. Enfin bon, voilà, François, sa famille, c'est vraiment quelqu'un que je porte vraiment très, très. Avec beaucoup d'affection dans mon cœur. Mais voilà, en fait, quand on aborde un film, je pense que c'est pas tellement les comédiens ou les comédiennes qu'on voit, c'est plutôt les personnages, la narration et le film. Et les comédiens, voilà, si on les connaît à part, c'est chouette. Mais je dois avouer que ça s'efface très très vite. En fait, la seule chose qui compte dans mon métier, en tout cas, c'est d'arriver à accompagner la narration avec tout un tas de particularités, sans appuyer, parfois en appuyant, en étant présent, en étant absent. Enfin, c'est toute une chimie qu'il me faudrait des heures à développer.
Mais... Est-ce que vous avez un modus operandi? Est-ce que vous aimez aller sur le tournage? Est-ce que vous travaillez à partir déjà du scénario?
Ah oui, ça peut arriver effectivement de développer des thèmes sur le scénario. Ça peut arriver effectivement de, généralement, la plupart du temps, avant qu'on décide de travailler ensemble et qu'un réalisateur ou une réalisatrice m'accorde sa confiance. Effectivement, je reçois le scénario et puis on en parle ensemble. Mon travail intervient au fur et à mesure du montage. Je reçois les séquences les unes après les autres. Quand j'ai terminé normalement une séquence, j'ai vu cette séquence. En moyenne, j'ai fait un petit compte avec des collègues qui font le même métier que moi, à peu près 300 ou 400 fois.
Ah oui, carrément.
Oui. je pense que le film, quand le film est terminé, si vous m'enlevez le son, je pense que je peux post-synchroniser chaque réplique. Quand on est compositeur de musique de film, quand on a terminé le film, on le connaît mieux que le fond de sa poche. Donc voilà, s'il y a un mode opératoire, il est plus effectivement séquence par séquence au fur et à mesure du montage. Et les choses s'installent véritablement quand le montage est vraiment loqué et que là on rentre dans le dur, si j'ose dire, avec beaucoup d'échanges. Ça peut arriver aussi qu'il y ait de la musique diégétique, c'est-à-dire de la musique qui intervient dans le film. Dans ce cas-là, effectivement, on fournit de la musique en amont. Mmh. Et dans quelques rares cas, les réalisateurs, les actrices aiment bien avoir les thèmes un peu sur le plateau pour les faire entendre.
Je viens de voir un documentaire sur Morricone.
Ouais.
Et là, on mettait sur les films de Léon la musique de Morricone pendant le tournage avec De Niro.
C'est ça, ça peut arriver. Ouais. Ah, ça, c'est formidable. Mais donc là, c'est encore autre chose. Parce que il y a aussi plusieurs types de musique de film, parce qu'il existe plusieurs types de films. Là, on parlait par exemple de comédie. La musique de comédie est vraiment un truc très compliqué. Et souvent, on a l'impression que faire de la musique de comédie, c'est faire de la musique un peu légère, un peu. Bon, voilà, c'est une comédie, donc c'est ce que c'est, quoi. Et en fait, paradoxalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que une comédie, c'est souvent dialogué, le rythme est très important. Et venir rajouter une forme de dialogue supplémentaire avec la musique, c'est toujours un pari, un risque. C'est comme mettre du sucre sur la chantilly. Et il faut se mettre dans ses pas, ce qui n'est pas évident. D'autant plus que de la musique romantique, ça existe. De la musique pour faire rêver, ça existe. De la musique qui fait peur, ça existe. Mais de la musique drôle, ça n'existe pas. On ne rigole pas avec de la musique. On peut rigoler d'un pastiche parce qu'on se moque d'une chanson. Ça peut arriver. Mais on ne rigole pas parce qu'une mélodie est drôle. Ça n'existe pas. Donc, arriver à mettre de la musique sur une comédie, c'est vraiment quelque chose. Alors, pendant des décennies, on a eu des compositeurs qui faisaient des choses très bien, comme Vladimir Kosma, sur des comédies très célèbres et qui sont des classiques. Mais c'était une autre époque de cinéma. On avait 3 minutes de générique sur lequel il y avait un thème qui était disposé, et puis il y avait quelques morceaux qui arrivaient. Enfin, je ne minimise pas ni le talent ni le travail de Vladimir Kosma, bien évidemment, que j'admire énormément. Mais le cinéma a changé. La musique de film a changé. Aujourd'hui, mettre de la musique sur des comédies, c'est devenu quelque chose d'assez compliqué, de passionnant, et parfois de beaucoup plus chronophage qu'une séquence avec une contemplation d'un paysage magnifique ou d'une séquence dramatique. Voilà, c'est encore quelque chose de différent.
Vous avez travaillé pour la télé aussi, donc Demain nous appartient, Ici tout commence. La télé a changé, les budgets aussi. Est-ce que ça a eu un impact sur la musique?
Alors oui, nécessairement. Sur les séries dont on parle, moi, ça fait 5 ans. Sur Demain nous appartient, avec mes amis et collègues Émilie Gassin et Ben Violet, que je fais cette musique originale sur les deux séries. Donc depuis 5 ans, Demain nous appartient, et depuis 2 ans maintenant, Ici tout commence. Après, on est quand même assez gâtés, parce que sur ces deux séries, TF1 met des moyens. Donc, par exemple, tous les 2 mois, on a de véritables enregistrements avec orchestre.
Ah ouais.
Donc, pour une série quotidienne, c'est pas tout le monde. Donc voilà, un soin particulier est apporté à la musique, aux échanges qu'on a avec les équipes artistiques. Sur cette série, il y a un directeur artistique avec lequel on travaille, qui s'appelle Benjamin Minet. On travaille quotidiennement ensemble. Depuis 5 ans maintenant, il y a des vraies visions il y a un vrai travail d'équipe, et je pense que là aussi ça a changé. Peut-être que les séries quotidiennes, il y a ça quelques années, les telenovelas, il y avait un truc très industriel et on chargeait, et puis voilà. Là, il y a en tout cas sur ces séries une exigence artistique qui est réelle. C'est ça qui est plaisant.
Mathieu Gonnet, un grand merci.
Et c'est moi qui
bonne fin de festival et bonne fin de séjour à Mons alors.
Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie et j'invite toute personne qui croise Sylvain Goldberg dans les rues de Belgique à l'embrasser sur le haut du front, il adore ça.
Merci.